Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute. Bonjour Kamal.
Bonjour.
Merci pour ta participation dans ce podcast. Je suis ravie de décrypter avec toi la cuisine libanaise, après nous être intéressés aux cuisines chinoises, japonaises, indiennes et marocaines. Cette cuisine, j'ai eu l'occasion de la découvrir en allant visiter le Liban et je me suis rendu compte de son incroyable diversité. Cette diversité, tu la mets particulièrement bien en valeur dans ton restaurant Tolette à Paris, où chaque jour représente une région. On y découvre des pépites à côté des plats plus traditionnels comme les falafels, les fatayés, le taboulé ou encore le labné. Et de fait, la cuisine libanaise ne peut être que diverse tant le pays est une mosaïque culturelle et religieuse. On va parler de toute cette diversité, mais aussi bien entendu de la situation actuelle au Liban et des conséquences écologiques. Merci donc pour ton temps aujourd'hui. Pour retracer brièvement ton parcours, après des études d'art graphique, tu as sillonné en voiture les routes du Liban pour découvrir toute la richesse de ces terres. Tu as écrit des articles dans la catégorie Food and Travel sur un angle anthropologique, puis tu t'es intéressé à la slow food à Turin. En 2004, tu as lancé le Souk El Tayeb, le marché de producteurs à Beyrouth, pour que le rural vienne à la rencontre de l'urbain. Tu crois au pouvoir fédérateur de la cuisine pour rassembler des gens de tout horizon. Tu as écrit plusieurs livres, dont le dernier, Manger libanais. Pour commencer, je voudrais faire ton portrait de cuisine pour apprendre à te découvrir différemment. Je vais te demander de répondre à des questions de façon très spontanée. Es-tu prêt ?
Oui.
Si tu étais un
bonjour d'abord.
Oui, bonjour. Si tu étais un ingrédient ?
Du persil.
Ok, pourquoi ?
Pour faire un taboulé.
Ok. Si tu étais un plat ?
Un taboulé.
Donc,
tu ne vas pas aller très loin.
Donc, c'est normal que tous les Libanais en France et à Paris aient du taboulé. C'est le plat pour toi emblématique de la cuisine libanaise ?
Bien sûr, c'est le plat emblématique de la cuisine libanaise, mais ce n'est pas le taboulé de Paris. Attention, hein.
Ah,
j'ai une croisade anti-faux taboulé.
Alors, c'est quoi le vrai taboulé ?
Le vrai taboulé, c'est beaucoup de persil, du persil très tendre, du persil bien sûr plat, pas frisé, avec un peu de menthe, avec un peu d'oignon vert, un peu de bourgoule, pas de couscous. On ne connaît pas le couscous, c'est le Levant, ce n'est pas l'Afrique du Nord. De la tomate, beaucoup de tomates, du jus de citron, une pointe de poivre, du sel et de l'huile d'olive. Voilà. Et c'est de la fraîcheur, c'est un mélange, c'est un plat de fête, c'est un plat de dimanche et de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de dimanche sans taboulé. Et en même temps, c'est comme un très bon ami à moi, Antoine Daher, a écrit un jour que le taboulé, c'est un peu le symbole du Liban. D'habitude, tu vas dans une salade de tomates et de, je sais pas, de concombre et de laitue, tu arrives à distinguer les différents ingrédients et tu arrives à séparer un ingrédient de tout le reste. Si tu n'aimes pas la tomate dans une salade de feta, par exemple, tu peux l'enlever, tu peux manger le reste. Par contre, dans un taboulé, tu vois tous les ingrédients, tu vois bien le petit bout, tout est haché, très très fin, sliced comme je dis, donc tranché comme un jambon et non pas du tout haché, ça ne va pas rentrer dans ces détails techniques. Donc tout est haché fin, tu vois bien qu'il y a du persil, de la tomate, le bourgoule, tu vois tous ces ingrédients, mais tu n'arriveras jamais à les dissocier des autres. Et pour lui, c'est un peu un symbole du Liban, c'est ce mélange de temps, de différences et de diversité qui ensemble font un taboulé et un Liban, et on n'arrivera jamais à dissocier les uns des autres, c'est tous ensemble qui font ce pays.
Magnifique. Si tu étais une boisson.
La limonade que ma mère préparait en coupant le citron en longueur en 8 ou en 4 et en les frottant comme, comment on dit pour une pâte, qu'est-ce qu'on fait pour une pâte ?
On la malaxe, on la...
Oui, kneading en anglais.
Ok, oui.
Donc voilà, il y a un mon plus beaucoup malaxé avec le sucre pour extraire le jus, mais en même temps, les huiles qui sont dans la peau, quoi. Et après, on lave ça à l'eau fraîche. Donc on lave ça et on récupère l'eau, bien sûr, et voilà.
Est-ce que ça veut dire que tu avais des citrons, que ta mère avait des citrons ou non,
bien
elle
sûr,
les achetait
okay. Bien sûr. Et mes parents étaient très fiers parce qu'ils avaient un arbre qui donnait des citrons toute l'année. Donc c'était leur fierté.
Si tu étais un ustensile de cuisine.
J'adore les ciseaux dans la cuisine. C'est un ustensile. Peut-être les autres vont dire un bon couteau et des choses importantes. Les ciseaux, c'est un ustensile stupide et simple. Et je pense très utile parce que je déteste ouvrir un paquet, genre un paquet de lentilles, ouvrir avec les mains et après on voit tout jeter partout. C'est simple, c'est pratique et c'est utile.
Si tu, c'est ta Madeleine de Proust.
Le taboulé.
Ok. De quelqu'un en particulier ou pas particulièrement?
Non.
Ok.
Non. Un taboulé, c'est comme un texte. Un texte, c'est les mêmes 26 lettres que chacun de nous écrit d'une façon complètement différente. Donc, et le taboulé, c'est pareil, c'est une expression personnelle. Donc, chacun écrit le taboulé de sa façon à elle ou à lui. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas une compétition. Je déteste la cuisine compétition. Et c'est juste une expression.
Parfois ça veut dire
bonnes,
qu'on peut...
Les mauvaises, parfois on l'aime, parfois on l'aime pas. C'est pas grave, c'est juste l'expression de quelqu'un.
Ça veut dire qu'on peut changer les ingrédients parce que tu parlais de la tomate.
Non, okay. Pas de couscous.
Non, je pensais pas à ça. Je pensais à la tomate qui, évidemment, n'est pas de saison toute l'année ici en France.
Non, il faut qu'il y ait de la tomate. Un taboulé, c'est avec de la tomate. Donc, on fait pas taboulé en hiver. En tout cas, on sait que des produits qu'on va cueillir dans le jardin. Et j'aimerais bien dire que le persil, c'est plutôt un ingrédient d'hiver, de printemps et d'automne, et pas d'été.
Ouais.
Parce qu'en été, il est trop dur et il ne pousse pas. Et la tomate, bien sûr, c'est un produit d'été, mais c'est un produit d'autres saisons aussi. Pas en plein hiver, mais il y a de la très bonne tomate en automne et au printemps, quoi.
Ok. Est-ce que ça veut dire que dans ton restaurant à Tolette, il n'y a pas du taboulé toute l'année?
Il y a du taboulé.
Okay.
Tous les jours.
Ok. ton premier souvenir lié à l'alimentation?
J'ai un premier souvenir lié à moi cuisiner, mais pas à l'alimentation. Je me rappelle que la première fois, on était à la montagne. Donc, en été, on va à la montagne parce qu'il fait plus frais et c'est comme ça, on ne voyage pas. On va à la montagne et j'avais décidé de faire un gâteau. Et c'est ça mon premier souvenir. C'est pas en mangeant quelque chose, c'est en préparant quelque chose. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi je me rappelle de cette histoire, mais pour moi, c'est très clair. Et pour moi, il fallait juste, c'était des ingrédients. Il y avait de l'œuf, du sucre, de la farine. Il fallait un moule. Donc, j'ai pris une boîte de thon parce que je ne voulais pas avoir accès aux ustensiles de ma maman. J'allais être engueulé, bien sûr, après. Il fallait du feu. Donc, j'ai pris un œuf, du sucre, de la farine. Je les ai mélangés. Je les ai mis dans une canne,
une boîte de conserve.
Dans une boîte de conserve de thon que j'ai lavé, bien sûr. Et j'ai mis ça. Il fallait aussi du feu. Donc, j'ai mis ça sur le feu. Et je ne sais pas pourquoi ça a brûlé, c'était pas un bon gâteau, j'avais pas compris à l'époque, mais ça c'est vraiment mon premier souvenir de cuisine.
Incroyable, ouais. Et qu'a dit ta mère du coup quand ça s'est mis à brûler?
Je me rappelle seulement de moi devant, c'était pas un grand gars, c'est les maisons de montagne, c'est des maisons un peu pas camping, mais simples disons, donc il n'y avait pas un grand gaz avec un four, c'est pour ça que je n'avais pas utilisé le four, parce que c'était juste le truc avec les trois feux et... C'était juste la gazinière avec les trois feux, donc il n'y avait pas un four. Et je me rappelle très très bien de moi devant ces trois feux et j'étais presque aussi roux que les trois feux, quoi. J'étais un enfant, quoi, et que j'attendais ça et que ça a brûlé. C'était une omelette qui a brûlé, en fin de compte, voilà.
Ouais, ouais. si tu étais un ou une autre chef?
Qui j'aurais été? Pour moi, une cuisinière.
Ok.
Ouais. Et pour moi, c'est une très grande différence entre chef et cuisinier. Pour moi, il n'y a pas de sexe, ce n'est pas une question de chef, chef-feu, cuisinier, cuisinière. Chef, c'est un métier, donc c'est une brigade, et ça s'appelle chef, c'est comme un chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui doit répondre de budget, c'est tellement un chef d'entreprise qui doit réaliser je sens qu'un chef doit plus réaliser des buts, comment on dit en français, je cherche mes mots aujourd'hui, Des objectifs, voilà. Donc, c'est plus un chef d'entreprise qui doit accomplir des objectifs plutôt que de cuisiner. Quand on est cuisinier, on veut juste faire plaisir et nourrir les autres, les nourrir à manger pour sustain their life, pour, comment dire, pour nourrir leur vie, quoi.
Oui, bien sûr.
Et leur faire plaisir et les aimer comme ça. Donc, les mamans aiment les enfants, les mamans orientales aiment les enfants en lui disant « tu n'as pas assez mangé, il faut manger plus, quoi.
» Ton restaurant préféré ?
Mon restaurant préféré, c'est une très longue liste. Je sors d'une bonne boulangerie juste à côté. C'est une très, très longue liste. C'est la cuisine simple, authentique, sans chichi, sans égo. Je pense à une petite bicoque en bord de mer au Liban, à Batroun, chez Maggi. C'est une très grande amie à moi qui est complètement folle et qui n'a que le cœur pour cuisiner. Je pense à Gemma dans la campagne piémontaise, à Rodino qui est un de mes restaurants préférés au monde. Et Gemma est là depuis 40 ans à faire le même menu à 27 euros. Et tu t'assieds à table, elle va te servir, c'est des plats qui vont passer de table en table, les desserts par exemple ou autres. Et voilà, c'est une cuisine maison, c'est une cuisine simple, c'est une cuisine authentique et sincère.
On mettra ces adresses évidemment dans la description de ce podcast. T'es plutôt restaurant ou plat fait maison ?
Plat fait avec le cœur, que ce soit au restaurant ou à la maison.
Et t'arrives à avoir le temps encore de cuisiner chez toi ?
Pas beaucoup. Peut-être plus à Arles, j'habite entre Paris et Arles, peut-être plus à Arles qu'à Paris. Mais oui, et je trouve que cuisiner, c'est pas beaucoup de temps. Quand on est organisé, quand on sait faire des courses, quand on est préparé, donc c'est pas beaucoup de temps. Ça, c'est de un. Et de deux, les gens ne veulent pas seulement que tu leur donnes à manger. Parce que sinon, tu peux leur donner un ticket restaurant ou leur donner un billet de 50 euros et leur dire « allez manger ». Les gens veulent que tu t'occupes d'eux. Donc, et s'occuper d'eux, ça veut dire... Voilà, passer un petit moment et cuisiner. Je me fais beaucoup aider, je prends des plats de taulé quand je reçois chez moi à la maison ou il y a une bonne chose à côté, donc je la prends d'à côté. Mais c'est mettre un peu de soi quand même.
Que représente l'alimentation pour toi ?
C'est la vie. Si tu ne manges pas, la nourriture, c'est ce qui sustain. Il faut qu'on trouve ce mot en français. C'est ce qui nourrit notre vie, quoi. Yeah. Mais sustain a un autre sens. Ça permet que ça dure dans le temps. Donc, c'est pas seulement nourrir, c'est nourrir et garder dans le temps. Mais la nourriture n'est pas seulement ce que tu manges. La nourriture, c'est ce que tu vois. C'est tous les sens. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent avec le nez, c'est ce qu'on sent avec tous nos récepteurs dans notre corps. Donc, c'est tout ça à la fois.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être restaurateur ?
D'être quoi ?
Restaurateur.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouvrir un restaurant.
Mais je n'ai pas de restaurant. Et si mon aventure parisienne n'a pas été très joyeuse, peut-être c'est parce que j'ai été trop restaurateur.
Okay.
Je suis nullement intéressé d'être restaurateur, mais nullement. Je déteste ça. Pour moi, c'est ce que je crée, c'est des cuisines où des gens, la plupart du temps des femmes, disons, cuisinent et où des gens viennent et où des clients viennent manger. Mais je ne me considère pas du tout comme un restaurateur, mais du tout, du tout, du tout.
Ok, alors qui es-tu, Kamel Mzawak ?
Quelqu'un qui essaie de rendre la vie meilleure. Voilà, à travers chaque chose que je fais. Mais il ne faut pas m'applaudir, je ne sais pas si vous allez m'applaudir, mais bon, c'est ce que chacun de nous devrait faire.
Est-ce que tu as un slogan, quelque chose qui te fait vibrer ?
Is it change you want to be ?
Ok.
Gandhi. Et c'est tout. Je crois à rien d'autre.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir ces restaurants, même si tu dis que tu
dis tes cuisines.
Tes cuisines, pardon. Même si tu dis que tu n'es pas restaurateur, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir Tolette ?
Je n'y ai jamais réfléchi. J'ai même pas réfléchi. En 2004, on fête les 20 ans du marché de Scotab cette année. Mais en 2004, j'ai même pas réfléchi. Tu vois, les journalistes adorent toujours qu'il y ait une histoire. Donc, je dis oui, c'était le 15 août. J'ai dormi tôt ce soir-là et j'ai rêvé d'un truc. J'ai rêvé qu'il fallait que je fasse un marché, tu vois.
Alors oui, raconte ce que c'est que Soukhel Taïeb avant pour les gens qui connaissent pas que t'as ouvert en 2004.
Attends, je vais te répondre. C'est juste répond, c'est, il y a des besoins ou des problèmes et c'est amener une réponse, une solution. Et chaque fois, c'était la même chose. Donc, Soukhot Tayeb, c'était en 2004. C'est un marché de producteurs. Donc, à un moment, il y avait un garden show, une foire de plantes à Beyrouth et les organisatrices m'ont demandé de m'occuper du côté cuisine. J'étais food writer, écrivain de cuisine et journaliste. Et elles m'ont demandé de montrer, bien, tu es monsieur bouffe à Beyrouth, au Liban, tu vas t'occuper de ça. Donc, j'ai ramené autour de moi une dizaine de producteurs pendant 5 jours. Ça s'appelait les trésors de la terre. Donc, en arabe, c'est un très joli mot. Donc, il y avait le garden show et j'ai appelé ça « the garden's fruits ». Fruits dans le sens de, pas seulement fruits, mais trésors, quoi. Et pendant 5 jours, ça a eu tellement de succès. Et au bout de 5 jours, je me suis dit, ben, je ne peux pas m'arrêter, il faut continuer quand même. Donc, comment je vais faire? Ça m'a pris 10 jours pour créer un nom qui s'appelait « Soukhot Tayeb » et trouver un lieu, la logistique et tout ça. Et avoir le marché. Donc, le 10 juin 2004, c'était le début du marché. C'était un marché fermier. C'est un marché de préférence bio et pas exclusivement bio pour ne pas créer des ghettos. Et parce qu'il n'y avait pas assez de producteurs bio à l'époque, il y en a encore moins maintenant avec tous les problèmes qui se sont passés depuis, en tout cas. Et pour aussi ce qui était, c'est un marché de producteurs exclusivement. On n'a pas le droit d'aller acheter les produits à Rungis et de venir les vendre. À ce moment-là, on est juste revendeur, quoi. Donc, personne ne pouvait vendre ces lentilles que il ou elle qui les avait plantées et récoltées. Et donc, ce monsieur ou cette femme, il vendait comme ses enfants, quoi, ce qu'il avait produit. Et l'argent revenait tout de suite vers eux. Et il y a une chose très, très importante aussi, c'est que le consommateur comprenait que les lentilles, ce n'est pas juste un produit qu'on achète sur une étagère au supermarché, un produit de consommation, mais c'est quelque chose que quelqu'un a planté, a récolté ou a préparé, si c'est un plat ou une préparation. Et c'était aussi un contact direct entre le producteur et le consommateur. Donc, ce n'était pas juste un produit sur une étagère. Et il y avait une chose très, très importante aussi, c'était la dignité, parce que dans toutes les langues du monde, paysan est un gros mot, peasant en anglais, paysan, mais quel paysan, tu vois, mais dans toutes les langues du monde, en arabe, dans toutes les langues du monde, paysan est un gros mot, quoi, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi, quand cette personne est là à faire une des choses les plus importantes, qui est de nous nourrir, quoi. Je ne dis pas, n'en faisons pas un dieu, mais au moins, n'en ne faisons pas un diable non plus, quoi. Donc, c'était pour toutes ces idées-là, et pour qu'il y ait un dialogue donc entre ces gens de la campagne et ces gens de la ville, qui se considèrent meilleurs, bien sûr, et aussi au Liban, dans un pays de tant de diversité, de tant de religions, où ces gens-là ne savaient même pas quelle était la religion de l'autre, quoi. Et c'était tout ça un peu à la fois. Donc, quand on voit sous cet angle-là, ce n'est plus un marché de légumes, c'est un marché, c'est une agora, c'est un lieu de rencontre, de retrouvailles et de découverte.
Ce que je comprends, c'est que tu as en tout cas été depuis quasiment toujours passionné par la cuisine. Tu disais que tu étais food writer avant de créer ce marché, Oui. Puis ce restaurant. D'où te vient cette passion?
Je suis né en 69, la guerre a commencé en 75 et je n'ai jamais compris pourquoi toi de l'autre côté, tu avais le droit de me tuer. Et moi, j'avais le droit de te tuer. J'avais jamais compris ça. J'avais des parents, nous, on habitait d'un côté de la ville, et j'avais des parents qui habitaient de l'autre côté de la ville. Et même, je me rappelle quand j'étais enfant, mais adolescent quand même, je sais pas, j'avais 14 ans peut-être, c'était des frontières, hein, entre une région et l'autre, et les gens, tu ne passais jamais de l'autre côté de la ville quand tu étais de ce côté. Et moi, même seul, je traversais, et je pouvais jamais rester ou savoir que j'étais obligé de rester d'un seul côté. Et je me rappelle toujours, ça c'est des images dans ma tête quand même, comment, et je pense que j'avais des parents un peu fous, une maman folle aussi qui me permettait de le faire, c'est comment tu envoies ton fils à ton enfant, tu vois, de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il va foutre? Il va voir sa tante, mais sa tante vient le week-end ici, il la verra, et je suis très très redevable pour mes parents pour ça.
Et le lien avec la cuisine?
Ben c'est ça, j'ai jamais accepté qu'il y ait un autre. Et avec le temps, j'ai compris que On pouvait être de couleur de peau différente, de religion différente, de politique différente, mais en fin de compte, on habite tous les deux au sud de la France. Il y a des pêches, on va tous les deux manger des pêches. Et notre cuisine va être autour de la pêche ou de la... Donne-moi d'autres exemples, je ne sais pas. Donc, on habite sur une même terre, on va manger pareil. Même si certains, selon les préceptes religieux, ne mangeraient pas un truc ou un autre, bah, ça, c'est pas grave, mais tout le reste, c'est pareil. Et j'ai compris que c'était la cuisine qui était vraiment ce lien entre ces gens tellement différents.
Donc, c'est quelque chose de rassembleur avant tout. Est-ce que la cuisine, ça peut pas aussi séparer? Peut pas y avoir des guerres sur certains plats?
Non.
Parce que certains considèrent que ça revient d'un pays plutôt que d'un autre?
Non, non. Ils peuvent considérer ça, mais il faut voir si c'est vrai ou pas, quoi. Mais non.
On te qualifie souvent de food activiste, activiste pour la nourriture. En quoi la nourriture...
J'adore ce titre.
Ok.
Parce que activiste, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est chacun de nous qui doit l'être. Et si on n'est pas activiste, activiste, ça veut dire vouloir changer le monde ou changer les choses. Bah, comme je te redis la même chose, si à travers ces quelques mots, ça ne va pas faire un changement dans ton cœur et dans ta tête, ou dans ces quelques personnes qui vont écouter ces mots-là, ça sert à quoi qu'on les fasse juste pour remplir du temps? Il y a tellement du temps rempli pour rien, donc pour moi, on est tous activistes et on doit tous l'être. Si on fait quelque chose qui va rien changer, ben, faut pas le faire. C'est ouais. Du temps et de l'énergie perdue.
Beau slogan. Je voudrais qu'on parle maintenant de la cuisine libanaise concrètement. Si tu devais décrire en quelques mots la cuisine libanaise, tu dirais quoi?
Diversité, j'allais dire terre et mer, mais bon, je me suis rappelé un peu des... non, diversité de géographie, ça veut dire diversité d'agriculture, ça veut dire diversité de produits et de recettes à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup de diversité.
Que représente la cuisine au Liban pour les Libanais?
C'est le meilleur moyen d'expression. Quand je veux te voir, je te dis... on va prendre un café ensemble. Donc, et quand je t'aime, pas d'amour, mais
je t'apprécie.
Quand je t'apprécie, je te dis, tu viens manger chez moi. Tu as été au Liban, tu as vu, je pense, combien les gens sont hospitaliers. Tu es dans une fête le soir à prendre un verre dans un bar en plein cœur de Beyrouth. Quelqu'un te rencontre. Le lendemain, tu es chez sa grand-mère à déjeuner, à manger un plat bizarroïde, des intestins farcis ou une molokhia ou un truc comme ça, quoi. C'est une expression d'identité, c'est une expression d'amour. On ne peut pas faire du sexe tout le temps, ni on ne veut pas le faire avec tout le monde, mais on peut partager de la nourriture avec les gens qu'on aime plus facilement, je pense.
Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, la cuisine libanaise, dans la crise que connaît le pays?
Un peu de survie.
C'est toujours possible de s'alimenter correctement aujourd'hui au Liban?
Oui, bien sûr. Le Liban est un pays d'inégalité depuis toujours. Mais ceux qui étaient au plus bas de l'échelle pouvaient vivre. Aujourd'hui, ils ne le peuvent presque plus. Et ceux qui sont riches sont devenus beaucoup plus riches qu'avant. Donc, et c'est cette injustice et cette inégalité qui me dérange énormément, moi, bien sûr, et qui me rend en colère, quoi. Donc, oui, bien sûr, ça existe toujours, mais on utilisait des tonnes de pinots de pain dans la nourriture, par exemple. Aujourd'hui, c'est du diamant, on ne l'utilise plus. Et bien sûr, la qualité, on sent la qualité des mets qui se perd un peu. J'exagère un peu peut-être, mais bien sûr qu'il y a une différence.
C'est encore possible de trouver des bons produits au Liban. Tu nous as dit, quand tu as ouvert le marché, tu voulais avant tout des producteurs bio. Et tu nous as dit, aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des producteurs bio.
Oui.
On en est où?
Parce qu'il n'y a plus de certificateurs. Il n'y en avait déjà pas énormément. Donc, bon, pour toutes ces raisons-là de logistique, disons, et pour les raisons que vous le savez mieux que moi, que ça prend plus de temps et d'engagement. Et les gens préfèrent ce qui est plus facile et plus rapide aujourd'hui. Chose que je comprends.
La cuisine libanaise, elle est parfois englobée dans ce qu'on appelle la cuisine levantine ou levantine. Qu'est-ce que tu penses de ce regroupement et de ce qualificatif?
Le Levant, c'est la Méditerranée de l'Est. Donc, c'est bien sûr toute cette région-là. C'est une côte qui va du nord au sud et c'est beaucoup de ressemblances dans la cuisine. Donc, c'est un peu une même cuisine levantine, oui. moyen-oriental, oui. Mais bien sûr, chaque pays a ses spécificités. Et je trouve que la cuisine libanaise, c'est pas parce que je suis libanais, je vais pas dire qu'elle est mieux que d'autres, je ne dis pas qu'elle est mieux que d'autres, mais elle est, je pense, plus colorée et plus fraîche. La cuisine damascène, par exemple, est une cuisine très goûteuse, grasse dans le bon sens, relevée. La cuisine à l'épine est une cuisine hors concours. Ça ressemble absolument rien dans la région. Exceptionnelle, très goûteuse, parce que la cuisine est tout simplement une expression de la terre, des produits, de l'histoire. Donc, elle n'a pas été un carrefour de civilisation. Donc, et sa cuisine est à l'image de ce que c'était. La cuisine turque, ben, il y a la cuisine du sud de la Turquie, c'est la côte, c'est la même cuisine que la cuisine syrienne de l'Attaquié, donc il n'y a aucune différence. Mais je trouve toujours, tu vois, le taboulé, c'est vraiment un symbole du Liban et ça illustre un peu ce que j'essaie de dire en tant que coloré et plus fraîche, disons.
Là, tu nous as parlé de la cuisine damascène à l'épienne. Tu nous parles en fait de petites zones, de villes au Liban, et c'est ce que tu as réussi à me démontrer avec Tolède, c'est cette diversité régionale des cuisines. Qu'est-ce qui explique comme ça, même si en France on la connaît aussi cette diversité régionale, mais qu'est-ce qui explique en France cette différence telle entre les régions?
La différence de la cuisine régionale, on ne la connaissait même pas au Liban. Si tu demandais à quelqu'un qu'est-ce que tu cuisines bien, à une cuisinière ou à quelqu'un qu'est-ce que tu aimes bien manger, tout le monde va te répéter oui, taboulé, hummus, et bon, les grands classiques. Et tu dis non, mais est-ce qu'il y a un truc typique? Non, il n'y a rien de typique. Mais quand on commence à regarder un peu plus en profondeur, on trouve des spécificités très différentes d'une région à une autre. Et je comprends bien ça. Tripoli était une ville aussi, par exemple, très riche. Quand je regarde Tripoli, qui est au nord du Liban, et un village qui s'appelle Béchare, dont Gibran Khalil Gibran est originaire, donc c'est un peu les montagnes du Liban, il y a les cèdres du Liban au-dessus de ce village-là. Donc c'est toujours le nord du Liban. Une ville est sur la côte, l'autre ville-village, donc c'est un peu à 1500 ou 2000 mètres d'altitude quand même. Donc c'est à 40 km entre l'un et l'autre, et c'est deux mondes complètement différents. À Béchare, c'est la cuisine typique, par exemple, de la montagne. Ils ne connaissent même pas ce que c'est que la coriandre. J'exagère un tout petit peu, bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde mange des spaghettis et des burgers. C'est la cuisine un peu internationale, disons quoi. Hein. Donc, mais traditionnellement, ils détestaient ou ils ne connaissaient pas ce que c'était la coriandre. Un même plat, par exemple, le kebé au yaourt, est fait avec de l'ail et de la menthe. Donc, on parfume avec de la menthe. Sur la côte, on parfume avec de la coriandre. Il n'y a aucune épice dans la cuisine de la montagne. Il y a un mélange de 7 épices et tu en rajoutes 10 autres et plus tu en mets, mieux c'est. Il y a beaucoup plus de beurre, par exemple, sur la côte. Il y a plus de gras animal ou de l'huile dans la région aussi, un peu plus bas qu'un village comme Béchare. C'est une cuisine très rustique. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou pas bonne. C'est une expression complètement différente. Et Tripoli, c'est une cuisine très sophistiquée. C'est une des pâtisseries orientales les plus sophistiquées. C'est un peu une capitale de pâtisserie orientale. Donc, bien sûr, Tripoli, c'est une ville côtière, ouverte aux civilisations, très riche, avec beaucoup d'ingrédients. Tout le monde est passé, tout le monde a envahi, tout le monde a laissé ses traces à Tripoli. Donc, voilà, c'est deux villes qui sont à 40 km l'une de l'autre et qui sont complètement différentes. Si je regarde le nord et le sud, je pense au Kebbeh Nahieh, par exemple, qui est le tartare, pas un tartare, mais le kebbeh cru, avec la viande crue. Quand je regarde au nord, je peux dessiner la carte du Liban avec les différents kebbeh crus seulement. Donc quand je regarde au nord, c'est une région très dure, très rude, avec des montagnes très hautes, des falaises très très hautes et beaucoup de chèvres. Ils font un kebbeh avec de la viande de chèvre, un peu de bourgoule. Ils ne mettent même pas de l'oignon. On avait une cuisinière, Suzanne Douayi, qui en mettait un tout petit peu d'oignon. Elle allait être presque excommuniée parce qu'elle en mettait. Du poivre blanc, un tout petit peu, et du sel. Donc, tout ce qu'il faut, c'est ne pas dénaturer le goût de la viande. Par contre, au sud, le même plat, je n'ai pas appelé ça plat, c'est le même kebbeh nahieh, disons, le même kebbeh cru. Il y a la dame qui sort dans son jardin, il y a du bourgoule. elle sort dans son jardin et elle cueille tout ce qu'il y a comme herbe odorante, donc des feuilles de citronnier, de la menthe sauvage, de la marjolaine, du basilic, des, bah, je te fais une liste de 12 herbes différentes. Elle pile toutes ces herbes avec le bourgoule. Le bourgoule devient vert phosphorescent. Et elle ajoute ce bourgoule-là à la viande. Donc, il y a un ami du Nord un jour qui a dit « Mais ça, c'est pas du Québec, c'est du Chanel numéro 5 quand même. » Donc, et les terres là-bas sont c'est des collines très rondes, très douces. C'est un peu comme une expression très masculine, une expression très féminine, ronde et douce et tendre. Donc, oui, c'est un très petit pays, mais c'est tellement de différences de région, de géographie et d'origine. Et chaque différence crée une cuisine différente.
Quelle est l'histoire de la cuisine libanaise? Est-ce que cette cuisine, elle a beaucoup évolué au fil du temps?
Il n'y a rien qui n'évolue pas. Donc, ce qui n'évolue pas, c'est une pierre ou quelque chose de mort. Mais si c'est quelque chose de vivant, bien sûr que ça évolue. J'ai 54 ans aujourd'hui et je me rappelle que dans le temps, quand on mangeait des pâtisseries orientales, il y avait du sucre. Aujourd'hui, il y a 4 fois moins de sucre peut-être, par exemple, ou de gras, ou déjà dans ça. On mangeait jamais de poisson cru, jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, on mange du poisson cru dans un restaurant libanais, quoi, hein, à la japonaise. Par exemple, chez nous, on mange dans toutes les traditions orientales. Et quand on parle de Levant, c'est les mêmes traditions, que ce soit chrétien, musulman et juif, c'est les mêmes traditions. Donc, on mange pas de... On déteste la viande saignante, par exemple. On mange du cru ou du cuit, mais pas un truc entre les deux. Donc, aujourd'hui, ça commence à changer, bien sûr. Donc, toutes ces choses-là. Je me rappelle, quand j'étais enfant, on n'avait jamais entendu de la sauce soja, par exemple. Mais à un moment, ma mère ajoutait, après un moment, quand, on a connu ça, ma mère ajoutait ça à un plat très typique qui est le koussamer chez les courgettes farcies. Donc, c'est un plat très typique, très libanais, mais elle trouvait que ça relevait le plat. Donc, elle ajoutait ça à ce plat-là. Donc, il n'y a rien qui ne change pas, bien sûr.
Oui, les tendances, évidemment, et puis la multiculturalité, la découverte des autres cuisines qui influencent
oui, absolument.
La cuisine libanaise. Je voudrais parler éco-responsabilité. Est-ce que tu dirais que la cuisine libanaise, c'est une cuisine éco-responsable?
Je peux dire non.
Tu peux dire non, évidemment, je veux ton vrai avis.
Je pense que toute cuisine est responsable. Et pour moi, il n'y a pas de éco-responsable. C'est responsable. On est responsable ou pas. On ne peut pas être responsable envers l'environnement et ne pas être responsable envers de l'humain, par exemple, ou de l'animal, ou de... toute cuisine traditionnelle est super responsable par précarité, tout simplement. Ouais. Quand tu tues un animal, tu sais, tu ne vas pas aller chez Picard ou on achète de la viande, pas chez Picard, peut-être dans un supermarché, acheter une tonne de viande. Ça t'a coûté tellement cher d'élever cet agneau ou cette vache ou ce poulet que tu dois le manger. Maintenant, on a découvert une chose extraordinaire, tu sais, c'est from nose to tail, comment on dit en français.
De la fourche à la fourchette, non?
Non, c'est manger tout l'animal.
Ah oui, d'accord, oui.
C'est pas une invention, hein. C'est tout simplement, c'est que ça coûte tellement cher, ça t'a coûté en temps, en énergie, en argent aussi, tellement cher d'élever une poule ou un veau ou un agneau que tu dois le manger en entier. Au Liban, on mange les tripes, on mange mais tu manges tout. Encore un peu, tu mangeais la fourrure. On utilise la fourrure pour autre chose, bien sûr. Mais ça, c'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est manger saisonnier. Est-ce que tu as le choix? Il n'y a aucune autre technique et tu manges avec les saisons. Et pas seulement ça. Tu manges avec les saisons aussi. En hiver, on fait beaucoup de... Pendant les bonnes saisons, on fait beaucoup, beaucoup de réserves alimentaires. Et on appelle ça la monnaie. Donc, les conserves alimentaires ont un nom. C'est la monnaie. Donc, tu dois avoir du blé, des légumineuses, des pois chiches, des haricots rouges. Tu dois faire des pickles, des confitures. Tu dois confire de la viande, comme on confie le canard. Donc, c'est moitié gras, moitié... Parce que tu as la viande grasse à la fin de l'été. Donc, et qu'est-ce que tu vas manger en hiver? Donc, tu as tout chez toi à la maison pendant 6 mois. Tu peux même ne pas sortir. Tu habites à Bécherré avec 6 mètres de neige, tu vois. Tu peux même pas sortir de chez toi à la maison. Les maisons paysannes étaient très, très simples. C'était juste une pièce. Le matin, on y habitait. Le soir, il y avait comme une niche dans le mur où tu enlevais les matelas, tu les mettais par terre, ça devient la chambre à coucher. À côté, il y a une chambre pour le bétail, mais il y a une chambre très importante dans la maison qui est la chambre de la monnaie. Et même quand j'étais enfant, mon père allait, par exemple, On achetait des pommes de terre pour l'année entière, des oignons pour l'année entière, de l'ail pour l'année entière. Ma mère faisait des confitures. Mon père allait acheter dans les régions d'olives, de bonnes olives. Il y a bien sûr toujours deux écoles. Les meilleures sont au sud ou au nord. Mon père allait dans le Koura au nord. Il achetait de l'huile d'olive. On avait la perception que les récoltes étaient bonnes une année sur deux. Donc, il fallait acheter pendant cette bonne année de l'huile d'olive pour 2 ans. Mon père allait acheter les olives dans un jardin, dans des champs, aller dans la, comment on dit là, où on presse les olives, on fait l'huile.
Oui, le moulin.
Frantoio, dans le moulin. Et il rentrait à la maison avec de l'huile d'olive pour 2 ans.
Mais c'était une énorme quantité, non ?
On
n'allait
pas au Monoprix pour acheter une bouteille d'huile d'olive. Et j'ai toujours les jarres en terre cuite. J'ai 54 ans, j'en ai pas 150. J'ai toujours des jarres où on venait verser l'huile d'olive. Et chaque fois qu'on avait besoin d'huile d'olive, on descendait dans la chambre à provision, la chambre à monnaie ou telle monnaie, pour remplir la bouteille d'huile d'olive. Voilà. Donc, bien sûr que c'est responsable. Donc, pour toutes ces raisons-là, on mange de saison, on mange l'animal entier, il y a zéro déchet. Dans la maison de mes parents, quand j'étais enfant, très très jeune, il n'y avait pas de poubelle. On habitait dans un village qui s'appelait Jrita. Mais je te raconte des choses, je me rappelle, c'est comme la préhistoire quand même. Il n'y avait pas de poubelle. Combien de poubelles tu descends par jour, tous les jours ? Il n'y avait pas de poubelle. On avait un petit jardin, on avait des poules, toute la bouffe allait aux poules, et on avait un petit trou dans le jardin. On ne faisait même pas de compost, on ne savait même pas ce que c'est. Et on avait un petit trou où quand il y avait des cans, des trucs en fer ou je sais pas, des choses comme ça, il n'y avait pas d'emballage. Hein. On brûlait ça genre une fois par mois, ça faisait un petit truc qu'on brûlait, tu vois, et les cendres, elles allaient dans le jardin. Donc oui, bien sûr, c'est responsable. Et c'est, quand je dis c'est saisonnier, par exemple, en hiver, on mange donc la viande avec le gras. On fait des soupes comme la makhlouta qu'on fait maintenant en hiver à Taoulé, à Paris. Donc la makhlouta, c'est toutes les légumineuses ensemble, comme je ne sais pas si on appelle ça minestrone et autre chose en Italie. Mais c'est toutes, c'est les haricots blancs, les haricots rouges, les gros haricots blancs, des pois chiches, du bourgoule. Donc c'est tout ensemble. Et tu cuis ça pendant assez longtemps, c'est assez épais, c'est pas une soupe très liquide, quoi. Et c'est un repas, ce n'est plus un... C'est une bombe, quoi. C'est un repas. Donc oui, c'est responsable.
Mais est-ce que ça a changé ? Parce que là, tu nous parles de ton enfance, mais aujourd'hui, au Liban, il y a des poubelles. Il y a même une question sur les poubelles qui a été cruciale, notamment à Beyrouth, il me semble. La question des saisons, j'imagine qu'il y a quand même une agriculture intensive aujourd'hui au
Bien
Liban.
Bien sûr que si. C'est la même chose partout au monde, malheureusement. Il y a des tonnes de poubelles, il y a des tonnes d'emballages, il y a des tonnes de gâchis. On mange tout le temps, donc il n'y a pas de saison. Et oui, bien sûr.
Quelle est la...
Pardon, excuse-moi, je t'interromps.
Bien sûr.
Et parfois, les priorités ne sont pas vraiment pareilles. Les grands titres de responsabilité, d'éco-responsabilité et tout ça, c'est un peu le privilège des privilégiés. Donc, quand on est là, on était presque mort par une explosion. Quand en 2019, toutes tes savings à la banque, tout ton argent à la banque de toute ta vie a été pompé par la mafia, par les banquiers et par le gouvernement, et que tu te retrouves avec, tu peux retirer seulement $400 par mois pour payer ton loyer, tes médicaments, tes enfants, tes écoles et tout ça. Donc là, la priorité n'est pas vraiment ça. Et je donne toujours l'exemple où un séjour, je conduisais avec Rabia, mon mari, et tard le soir, il y a quelqu'un qui a jeté un papier d'une fenêtre. On se dit « Ah, oh, mais c'est pas possible !» Et Rabia qui me dit « Tu sais quoi, cette dame, elle travaille depuis 6 heures du matin. » C'est pas sa priorité, ça ne justifie pas l'acte. Mais parfois, il y a des questions de vie et de mort et les priorités sont ailleurs.
Et ça veut dire que la priorité aujourd'hui, au Liban, c'est pas de bien manger, par exemple. C'est comme en France, c'est la...
C'est de manger.
Ouais.
Tu vois, c'est de manger, et je te dirais presque de manger n'importe quoi, mais juste de manger.
De se nourrir.
Oui.
Si on revient à la cuisine libanaise de façon générale, quelle est la part des produits carnés et la place du poisson dans cette cuisine ? Est-ce qu'il y en a dans quasiment tous les plats, ou c'est plutôt une cuisine très végétale ?
La cuisine libanaise est une cuisine végétarienne et végane, je dirais même. C'est une cuisine végane à presque 90%. Et on mange jamais de viande comme on mangerait un rôti ou un steak. La viande est toujours diluée dans quelque chose. Donc, on mange la viande diluée avec du bourgoul. Donc, c'est une céréale, c'est du blé concassé. Et ça, c'est le kébé. On mange le poulet avec du riz, c'est du riz adjej. On mange, c'est toujours délayé dans autre chose. Donc, c'est une petite quantité. Et quand on fait un mézé, on mange 50 petits plats avant d'arriver au barbecue. Et après, quand on arrive au barbecue, oui, c'est de la viande, comme un barbecue normal, du poulet ou de la viande. Mais bon, je pense que tu as tellement mangé que tu mangerais la moitié d'une, comment on dit, skewer.
Brochette?
Une brochette, la moitié d'une brochette, quoi. Donc, c'est une cuisine très saisonnière, très, très végétarienne. Et comme je disais, comment on dit vegan en français?
Bah, vegan.
Vegan. Donc, c'est même vegan parce que aussi chez les chrétiens, donc quand il y a les jeûnes, on mange pas de viande. Les mercredis et les vendredis, ce n'est plus le cas maintenant, bien sûr, mais traditionnellement, c'était plus le cas. On mange pas de viande. Et chez les orthodoxes, surtout, quand ils jeûnent, on dit sans blanc. Et les blancs, c'est l'œuf et le fromage. Donc, c'est complètement vegan. Pas de beurre, pas de miel, aucun produit laitier.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est végétarien ou vegan au Liban, c'est facile.
Ah, oh, c'est le rêve. Ben, aujourd'hui, pas vraiment, parce que tout le monde veut manger que du poulet comme on fait. Ben, c'est la même évolution partout, que du poulet cuit et du shawarma. Et, bien sûr, mais traditionnellement, non. Et traditionnellement, je me rappelle, je vais arrêter de parler de mon enfance quand même. J'ai l'air d'un vieux schnock quand même. Donc, le boucher tuait un animal le vendredi soir. Il fallait aller pour acheter son bout de viande. Le dimanche, on pouvait manger de la viande crue parce que c'est le jour de fête quand même. Et un peu de barbecue aussi avec le déjeuner qu'on avait. Et après, au courant de la semaine, il y avait encore de la viande pour faire un ou deux repas. Mais les repas, c'était des ragoûts. C'est toujours un ragoût avec un peu de viande. Mais quand je parle de ces ragoûts-là, ça s'appelle tabakh. Tabakh, ça veut dire la cuisine maison. Et c'est ce que nous faisons à Taoulé. Ce n'est pas la bouffe qu'on mange dans les restaurants. Dans les restaurants, on mange des mézés. Donc, il y a une grande différence. Il y a la cuisine publique et la cuisine privée. La cuisine publique, c'est le restaurant où on mange des mézés ou le street food. Donc, un falafel, ce n'est pas un plat. J'ai bien écrit là. Donc, dans ton introduction, tu as dit un plat. Ce n'est pas un plat, c'est du street food. Le shawarma, c'est du street food. Et ce qu'on mange à la maison, c'est des ragoûts. Donc, on fait un ragoût avec du riz ou du bourgoul et une salade. Et c'est ça le repas. Et donc, tous ces ragoûts dont je parle, un ragoût d'haricots blancs, d'haricots rouges, un ragoût d'haricots verts ou des légumes farcis. Et tous ces plats existent en deux versions. La version qu'on appelle bzet, ça veut dire à l'huile, c'est végétarienne. Ou la version blahmé, ça veut dire avec viande. On peut faire un ragoût d'haricots rouges, par exemple. C'est le même ragoût. Il y a une version végétarienne et une version avec la viande. Et quand je dis avec la viande, c'est de la viande dans le ragoût. C'est une petite quantité dans tout le ragoût.
Est-ce que le bien-être animal, c'est un sujet au Liban pour les restaurateurs, ou devrais-je dire les cuisiniers, comme pour les éleveurs, ou même le grand public?
Aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas en tout cas beaucoup d'élevage au Liban. Okay. Il y a c'est beaucoup de chèvres, c'est des vaches laitières, mais la plupart de la viande est importée. Mais dans le temps, bien sûr, traditionnellement, bien sûr que c'était important, parce que tu aimes l'animal, parce que si tu le traites bien, il va te donner mieux et plus. Mais bon, aussi, chaque maison, ça c'est une petite anecdote, donc chaque maison prenait un mouton et l'engraissait. C'est un peu comme le foie gras, il fallait beaucoup, beaucoup l'engraisser. Il restait dans la maison et donc c'était comme un pet, comme un animal domestique. Et c'était la femme de la maison qui s'occupait donc de le nourrir tout le temps. Et bon, l'histoire c'est toujours qu'à la fin de l'été, c'est des animaux qui vont avoir une très grosse queue de gras. C'est une race locale qui fait une queue de gras. Et il n'arrive plus à bouger, donc il est tellement... C'est comme... Mais on ne le force pas à manger. Il mange tout seul et il est tellement attaché à la dame qui l'a nourri, quoi, que c'est très difficile pour elle à la fin de l'été
de le tuer,
de le voir partir, disons.
Comment est-ce que tu vois des modifications par rapport au changement climatique? J'imagine que comme partout au Liban, ça se voit. Est-ce que ça se voit dans la cuisine aussi?
Changement climatique et cuisine, je ne sais pas. Bien sûr, il fait plus chaud comme il fait plus chaud au sud de la France ou ouais, bien sûr partout au monde. Et le climat du Liban, c'est comme le sud de la France. Donc, c'est au lieu d'avoir des étés à 27 ou 30 degrés maximum, on a des étés aujourd'hui à 35 ou plus parfois. Et non, je vois pas vraiment de changement parce que les gens veulent toujours manger leur viande ouais. et le poisson frit. Et voilà.
Comment tu conçois tes démarches par rapport à ça ? Est-ce que tu essayes d'avoir une démarche responsable dans tous les projets que tu crées, que ça soit, j'imagine que oui, vu que tu cherches à changer le monde, mais que ça soit Tolette, ton marché, c'est évident, mais en tout cas dans tes restaurants, dans tes cuisines ?
Je pense que la plus grande responsabilité, c'est une responsabilité sociale, parce que moi, je considère qu'il n'y a pas un problème environnemental.
C'est-à-dire ?
Silence, il y a un problème humain.
Okay.
Quand on dit qu'il y a un problème environnemental, on met le problème sur l'environnement. C'est comme si l'environnement était tombé malade ou était devenu un méchant loup et qu'il nous voudrait du mal. L'environnement se porte à merveille, il est parfait, c'est l'homme qui est venu foutre en l'air l'environnement. Donc pour moi, c'est tout simplement un problème humain. C'est les hommes, avec un grand H, les hommes et les femmes, c'est l'humain qui a foutu en l'air l'environnement. Et pour moi, c'est vraiment qu'un problème social, quoi. C'est comme ça que je l'appelle humain ou social en un sens.
Ok. Et donc, comment tu essayes de changer ça, du coup si ton axe est de changer le monde et de changer l'humain, comment tu fais ?
Comment on dit l'éveil ? C'est l'éveil de l'humain pour faire le bon choix. Il n'y a pas une bonne formule. Moi, je ne peux pas te dire, oui, tu prends comment ça s'appelle le truc pour le mal de tête
Doliprane.
Je ne connais même pas le nom des médicaments. J'en utilise tellement peu. Donc, 2 Doliprane et ensuite, tu prends 2 cuillères de ce sirop. Ce n'est pas ça. Malheureusement, c'est chaque acte et chaque environnement demande une réponse et une solution différente. Et tu ne peux pas avoir une application qui te dit à chaque fois quelle est la solution la meilleure. C'est à toi d'être responsable, c'est à toi d'être éveillé pour pouvoir à chaque fois prendre la meilleure décision possible. Je te mets 2 pommes devant toi, je te dis celle-ci est bio, celle-ci ne l'est pas. Qu'est-ce que tu vas prendre ?
Moi, la bio.
Bien sûr. Mais tu sais quoi ? La bio vient d'une grosse agro-industrie. Elle vient de l'Amérique du Sud, disons. Ok, donc elle a fait beaucoup de voyages, hein. Voilà. Et la pomme non bio, c'est un petit producteur juste à côté, dans le Perche. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? On m'a dit qu'il faut, le médecin alimentaire m'a dit qu'il faut manger que du bio. Ben, non. C'est un choix constant. Je suis rentré dans les toilettes tout à l'heure, je me suis lavé les mains. Il n'y avait pas de papier. Est-ce que le papier est mieux ou la machine qui vante est mieux ? Ou un torchon qui... Je ne sais pas. En tout cas, il n'y avait pas de papier. J'ai pris du petit papier, je me suis essuyé les mains. Donc, est-ce qu'il fallait que je m'essuie les mains avec mon pantalon seulement ? Mais c'est vraiment ça. On ne va pas devenir hystérique et pencher à chaque chose, mais juste pour te dire que chaque acte compte. On ne va pas devenir hystérique, bien sûr, hein, mais juste pour te dire que chaque acte compte, tu vois ?
Et comment tu le mets en œuvre, du coup, dans tes cuisines, ces actes ?
En étant éveillé à chaque fois à faire le meilleur choix.
Ça veut dire que sur l'approvisionnement, ce que tu achètes, notamment comme fruits et légumes,
oui.
Tu vas vraiment essayer de trouver le meilleur.
À Beyrouth, oui. À Paris, non.
Ok, pourquoi ?
C'est un nouveau projet pour moi, avec beaucoup de complexités, donc des complexités administratives, beaucoup de complexités. Et on essayait un peu dans la liste des choses, dans la to-do list, tu vois, on essayait un peu de voir, ok, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté et qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite. Bien sûr qu'il y a qu'on peut s'approvisionner de suppliers.
Des fournisseurs.
De fournisseurs très responsables. Mais en même temps, quand le prix est 3 fois plus cher, c'est un peu difficile. Donc, il y a tout ça à jongler avec et il faut vraiment avoir la bonne solution. Comme je disais, il n'y a pas une bonne solution que docteur Bouffe va te dire de faire. Il faut vraiment jongler entre tout ça. Et à Paris, non, je ne suis pas arrivé encore à le faire, malheureusement.
Chaque petit pas, j'imagine, compte dans ce cadre.
Oui.
Je voudrais parler aussi de la question de la santé. Quand on pense à cuisine libanaise, on pense évidemment à l'huile d'olive, on pense à la place du gras, peut-être même un petit peu à la place du sucre avec les pâtisseries. Est-ce que tu dirais que la cuisine libanaise, c'est une cuisine qui est saine ?
pour moi, c'est une cuisine qui est très saine, c'est une cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine essentiellement végétarienne, très peu de viande, très peu de matière grasse. Tu parles de sucre et de dessert. Tu sais, on ne mange pas du tout de dessert après manger. C'est une tradition d'ailleurs, mais on mange un dessert après avoir fait la sieste à 5 heures de l'après-midi ou à un autre moment, mais jamais après avoir mangé.
La place de la femme aussi dans la cuisine libanaise, elle a l'air importante, je voudrais même dire essentielle. Tu nous as dit tout à l'heure, moi en cuisine, il y a essentiellement des femmes. Pourquoi c'est important pour toi ?
Parce que ce sont les femmes qui ont une approche plus ronde, plus douce, plus généreuse, parce que c'est elles qui donnent la vie.
Et ce sont des meilleures cuisinières ?
C'est pas une compétition, mais elles font ça peut-être avec plus de cœur. Mais parfois, les femmes aussi deviennent des chefs, elles deviennent plus dures et plus égocentriques que les mecs eux-mêmes. Quoi. Ça, c'est une autre paire de questions aussi. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure, la différence entre être cuisinier ou être chef, cuisinier, cuisinière.
Mais tu nous as dit aussi qu'a priori, c'était différent entre le Liban et la France, puisqu'en Liban, tu fais travailler que des femmes, il me semble.
Dans la cuisine, il y a la plupart, à 90% des femmes.
Pourquoi c'est différent à Paris ?
Ce n'est pas différent, c'est des femmes aussi.
Ah, ok.
Oui, c'est des femmes aussi. C'est la même proportion.
Est-ce qu'il faut être libanais pour travailler dans ton restaurant à Paris ?
Non. Mais s'il faut cuisiner la cuisine libanaise, il y a une dame éthiopienne avec nous, mais elle est tout aussi libanaise que n'importe qui de nous. Parce qu'elle n'est pas née au Liban, mais elle est au Liban depuis longtemps. Marie, elle est libanaise. Il faut comprendre, il faut que ta grand-mère t'ait donné à manger une crêpe pour que tu en fasses une bonne. Tu vois, une crêpe, ça ne s'apprend pas dans un livre où tu vas faire des stages, où la crêpe, c'est la Bretagne.
La Bretagne, oui.
Voilà, tu vas faire des stages. Non, il faut que ça fasse partie de ton ADN, il faut que ça soit ta Madeleine de Proust, tu vois. C'est la même chose pour toute cuisine, pas seulement pour la cuisine libanaise. Je ne dis pas pour la cuisine libanaise, mais je n'aime pas les cuisines réinterprétées ou apprises. Tu peux apprendre quelque chose, bien sûr, quand tu vas dans le pays et que tu t'immerses de ça. Mais pas dans des cours, disons.
Ça veut dire que la cuisine fusion, ça ne te parle pas ?
La cuisine comment ?
Fusion, où tu fais fusionner plusieurs pays.
Fusion,
c'est-à-dire que tu vas avoir un chef libanais qui va travailler un peu avec de la cuisine japonaise.
Je ne sais pas ce que c'est.
Ok.
Mais la fusion, elle existe tout le temps. Hein.
Oui, c'est ce que tu disais avec le poisson cru.
Absolument, c'est l'évolution et tout ça. Mais quand, je n'aime pas du tout, quand on se force à faire des choses juste pour faire différent. Et ouais. Ça, c'est le contraire de l'authentique et ça me répulse. Quoi. c'est de l'effort perdu, c'est pour ça.
Pour conclure ce podcast, je vais te poser quelques questions que j'aime bien poser à mes invités.
Encore ?
Et encore. Si tu avais une mesure politique à promouvoir pour l'alimentation durable, ce serait quoi ?
Respecter l'humain et perpétuer la vie. Qu'est-ce que ça prend pour faire ça ? Et il faut le faire.
Est-ce que tu trouves qu'on est dans la bonne direction ?
On va dans la bonne direction. Je me pose beaucoup de questions ces derniers temps.
Ce que tu préfères dans ton métier aujourd'hui ?
Oh, les gens.
Ce que tu aimes le moins ?
Les gens.
Tu disais tout à l'heure que tu as été trop restaurateur à Paris. Oui. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que j'étais embourbé dans l'administratif et je ne changeais pas le monde assez.
C'est quoi tes projets d'avenir ?
Ah, je ne sais pas. C'est arrêter ce qui me fait mal, respirer et réfléchir après.
Donc un peu moins de travail ?
Hein ?
Travailler un peu moins ?
Peut-être, oui. Et un grand projet est récolter un projet que j'appelle Akel. Akel, ça veut dire en arabe food. J'aime pas le mot nourriture en anglais, mais food. Et c'est récolter toutes les histoires de nourriture du Liban, les ingrédients, les gens, les tout, les mettre dans un grand coffre de trésors. Et on verra ce qu'on en fera après. Mais perpétuer ce trésor, sauver ce trésor-là.
Ta recette libanaise à partager avec nos auditrices et nos
Taboulé.
Auditeurs.
Taboulé. Je suis désolé, je suis tellement...
Alors, dis-nous exactement comment il faut qu'on le fasse.
Comment faire le taboulé ? C'est beaucoup de persil, du persil plat et très frais et très tendre, petit, pas très grand, pas dur.
Ok. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre un très gros bouquet, plutôt un... Enfin, pas des très grosses feuilles.
Non, voilà. Du très, très fin. Bah, on le trouve rarement à Paris. Okay. Et en Europe, quoi. Donc, il faut vraiment le chercher. Donc, c'est pour ça qu'à Arles, on a un producteur japonais qui fait le meilleur persil du monde. J'ose pas dire meilleur qu'au Liban, mais très bon, disons. Donc, c'est de la, beaucoup de persil, beaucoup moins de menthe. Et le persil et la menthe doivent être hachés très très fin, mais pas hachés à l'occidental. On revient sur ce qu'on a déjà haché et ça va faire un jus vert noir. Il faut les hacher comme si on tranchait un jambon. Donc une fois, il faut que ça soit très très fin. Donc on coupe sur là où on a déjà haché très fin. Donc il y a ça, des oignons coupés très très fin. Parce que le persil et la menthe, faut pas les meurtrir. Hacher de l'oignon très fin, mais là, l'oignon, je dois le meurtrir, l'oignon vert ou de l'oignon blanc. Donc, je mets un peu de sel et un peu de poivre et je le frotte avec mes mains. Ça, c'est le seul élément que je dois meurtrir.
Une fois qu'il est haché ou avant?
Une fois qu'il est haché, bien sûr. Et ensuite, de la tomate, presque autant de tomates que de persil, donc beaucoup de tomates. Je mettrai peu de bourgoule. Le bourgoule, je le mets sur la tomate.
Tu le mets cru?
Le bourgoule, ouais. Bien sûr, c'est du bourgoule fin. Le bourgoule n'est pas cru, en fait. Le bourgoule, c'est du blé qui a été étuvé, donc presque bouilli. Ensuite, séché au soleil, il devient dur. Ensuite, on le craque, soit fin, soit gros. Le gros est utilisé comme du riz pour du risotto ou pour des farces. Et le fin est utilisé pour le kébé ou pour le taboulé. On le lave à l'eau, on les sort vite et on l'ajoute à la tomate. Il va absorber le jus de la tomate, mais c'est vraiment le bourgoule fin, pas le bourgoule gros. Et c'est tout. Beaucoup de persil, un tout petit peu de menthe, beaucoup de tomates, un peu d'oignon, c'est tout. Je mélange pas, chaque chose reste à part, parce que toute l'idée, il faut pas que les ingrédients s'oxydent. Je garde au frais, tout est déjà frais aussi, même mon bol est frais, hein, c'est comme monter des blancs en neige, quoi. Et à la dernière minute, avant de passer à table, c'est un cérémonial sacré, on mélange sans les jus. On mélange. Moi, je mélange. J'aime bien mélanger avec une cuillère et une main, parce que pour ne pas trop chauffer. Toute l'idée, c'est de ne pas trop oxyder. C'est une salade qui doit être très, très fraîche. Quand c'est bien mélangé, j'ajoute mon citron et mon huile d'olive. Et je ne touille plus beaucoup, parce que maintenant, ça va l'oxyder plus rapidement. Et je sers tout frais. Et ça se mange avec du chou blanc, craquant, qu'on mange au Liban, pas des choux durs, ou de la romaine, quoi.
Et tu n'ajoutes pas de sel?
Bien sûr.
Si, ok. Tu ajoutes un peu de sel, du
poivre. Je mets du sel sur l'oignon et je mets du sel aussi sur la tomate un peu au début. Quand je la mélange avec du bourgoule, comme ça, j'ai l'eau de la tomate. Et si c'en est trop, je jette cette eau aussi. On ne va pas rentrer dans tous ces détails.
Mais si, c'est important d'avoir
du sel. J'ai écrit les 10 commandements du taboulé, donc on fera une émission spéciale taboulé. Je pourrais parler des jours du taboulé.
Merci beaucoup, Kamal.
Merci
d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.